Vous écoutez Stade Bleu sur France Bleu. Le Stade Bleu, Jérôme Val.
Bonsoir et bienvenue dans Stade Bleu, ou plutôt Stade Bleu-Blanc-Rouge. Après le nouveau sacre des handballeurs français, ils sont devenus champions du monde pour la cinquième fois en battant le Qatar. On y reviendra bien sûr dès le début de cette émission. Nous serons en direct dans un bar depuis Nantes. Et puis écoutez par exemple quelques réactions. Une première, celle de Didier Dinard, c'est l'adjoint de Claude Onesta.
Je me suis fait agresser par une bande de champions. Donc c'est un peu normal, c'est l'euphorie, c'est tout le monde, c'est un mois de sacrifice et aujourd'hui ça a payé, c'est l'explosion.
Au programme également, le football et la fin de la 23e journée de Ligue 1. Il y a quelques minutes, Bordeaux et Guingamp ont fait match nul un partout. Nous serons aussi en direct du stade Louis II de Monaco qui affronte le leader Lyon. Et puis en début d'après-midi, Saint-Etienne a perdu à Caen 1-0. Réaction fataliste de l'entraîneur des Verts, Christophe Galtier.
En deuxième, rien n'est allé dans notre sens. Du moins, on n'a pas fait grand-chose pour que ça aille dans notre sens. Et si Caen l'a emporté, c'est que Caen mérite sa victoire.
Il est l'homme le plus titré à Melbourne. Novak Djokovic a remporté ce midi son cinquième titre à l'Open d'Australie. Nous vous raconterons ce match face à Andy Murray. Un peu plus tard, nous irons à Nice qui a ouvert le Golden Tour de natation. Une compétition très lucrative pour les nageurs. Le vice-président de la Fédération française sera en direct avec nous. Autre discipline à l'honneur ce soir, le football américain qui va vivre une nuit dantesque avec le 49e Super Bowl. Une épreuve à l'américaine mais qui séduit aussi la France. Et puis juste après 19h30, l'invité de Stade Bleu sera Jérôme Valque, le secrétaire général de la FIFA. Entretien exclusif avec Jacques Vendroux où il sera question de l'élection du président de la FIFA et des prochaines Coupes du Monde en Russie et au Qatar. Ils sont donc quintuples champions du monde, ce que personne n'avait encore fait. Les handballeurs français se sont imposés en finale du mondial face aux pays hôtes. Victoire 25-22 contre le Qatar. Match qui s'est terminé il y a une dizaine de minutes maintenant et que vous avez suivi au milieu des supporters. Bonsoir Sébastien Baer.
Bonsoir Jérôme.
Et vous êtes installé dans un bar-restaurant de Nantes, juste à côté d'ailleurs du Palais des Sports où évolue le club de hand de Nantes. Et on imagine assez aisément, Sébastien, l'euphorie qui vous a accompagné, qui vous a entouré là pendant pratiquement 2 heures.
Effectivement, je peux vous dire, Jérôme, qu'on a retenu son souffle vraiment jusqu'à la dernière minute ici sur les quais de Loire, avant la délivrance. Explosion de joie, vous en doutez, après la victoire tricolore et cette cinquième étoile mondiale que les handballeurs français vont pouvoir apposer maintenant sur leur maillot. Les Bleus qui décrochent du même coup leur qualification pour les Jeux Olympiques 2016 de Rio. Alors, il y a eu en vrac la solidité de la défense, la rage de vaincre du gardien Thierry Omeyer, la maîtrise de l'incontournable Nicolas Karabatic. À mes côtés, Jordan Camarero, joueur de ce HBC de Nantes, l'équipe de handball de Nantes. Ça a été plus compliqué que prévu cette rencontre, Jordan.
Oui, ça a été compliqué. Les Qataris ont fait un très gros match. Ils ont joué leur finale comme il fallait la jouer. Je pense qu'ils ont tous été à 100% et ils ont fait douter les Bleus jusqu'à la dernière minute. Donc chapeau à eux. Je pense qu'ils ne doivent pas avoir beaucoup de regrets.
Est-ce que c'est le Qatar qui a été plus fort que prévu ou la France qui n'était pas à son niveau ce soir?
Ah, après c'est compliqué à dire parce que c'est une finale et c'est un match qui se joue au couteau en fait. Il y a dû avoir beaucoup de pression des deux côtés. Donc bon, je pense que les Qataris sont partis sur le principe en se disant qu'ils n'avaient rien à perdre et que voilà, faudrait faire des jeux les Français jusqu'à la fin. Et ce qu'ils ont réussi à faire, ils ne sont pas passés loin. C'est dommage pour eux, mais chapeau aux Bleus qui décrochent leur cinquième étoile ce soir.
Voilà, et avec cette cinquième étoile, les Bleus détiennent simultanément les 3 titres majeurs olympiques, mondial, européen, ce qui, sauf erreur de ma part, ce que aucun autre pays n'a su faire, Jérôme.
Merci beaucoup Sébastien, et vous avez assisté à un grand moment de sport, j'imagine, au milieu de ses supporters et de ses joueurs. Merci à vous, en direct depuis Nantes, et effectivement, c'est le cinquième titre pour les Bleus, cinquième titre mondial pour les Bleus, après 1995, il y a 20 ans déjà, 2001, 2009 et 2011. Et puis il y avait un autre match, c'était le match de classement pour la 3e place et c'est la Pologne qui a battu après prolongation l'Espagne. On reviendra évidemment sur ce sacre des Français tout au long de ce Stade Bleu avec les réactions qui nous arriveront au fur et à mesure. Voilà, on a un son peut-être, une réaction, nous me dit-on. Eh bien écoutez, on va écouter une réaction de la part de ces Français. C'est le capitaine Jérôme Fernandez, capitaine expérimenté qui en a connu des aventures avec les Bleus, qui vit donc une nouvelle consécration avec ce cinquième titre, Jérôme Fernandez.
Le match a été serré jusqu'au bout, mais on sentait quand même qu'on avait la maîtrise du match. Et c'est vrai que quand on a réussi à prendre 3 buts d'avance à la fin, on savait avec notre expérience que le match était terminé. C'est quelque chose d'exceptionnel qui a démarré il y a plus de 20 ans maintenant. Et je vous garantis que ces garçons-là, ils ne sont pas prêts de s'arrêter de gagner. Donc, à mon avis, l'équipe de France a encore de belles années devant elle. Je voudrais rendre hommage à mon collègue de chambre, Thierry Omeyer, avec qui j'ai vécu toutes les compétitions, avec qui j'ai tout gagné. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de médailles que je lui dois. Et je voudrais lui rendre hommage ce soir.
Ouais, sacré chambré entre Jérôme Fernandez et Thierry Omeyer. Les deux piliers de cette équipe de France, sacrée donc championne du monde après sa victoire sur le Qatar 25 à 22.
Stade Bleu, le football.
Et la 23e journée de Ligue 1, un match s'est terminé il y a quelques minutes. Bordeaux et Guingamp n'ont pas pu se départager, un partout. Christophe Miedougé, vous êtes en direct du stade Chaban-Delmas de Bordeaux. Bonsoir.
Bonsoir.
Match nul sur cette 23e journée. Logique ou pas pour les deux équipes ?
Les Bordelais peuvent avoir des regrets, hein, évidemment. Ils lâchent encore des points à la maison. Ils ont dominé. En première mi-temps, déjà, c'était le cas. Mais ce sont les Guingampais qui ont ouvert le score. Un magnifique but de Claudio Beauvu, l'incontournable Beauvu, qui marque son 11e but en championnat, qui marque à la 27e minute sur un centre de Jérémy Pied. Et puis, les Bordelais, au lieu d'accélérer, de réagir très vite, eh bien, ils se mettent un petit peu sous pression des Guingampais qui se créent 2-3 occasions supplémentaires avant la pause. Heureusement, Cédric Carasso, le gardien bordelais, sauve la maison. En deuxième mi-temps, ça va mieux. Côté Girondin, on accentue un peu plus la pression. On n'arrive pas pour autant à se créer beaucoup plus d'occasions. Et il faut une frappe de 25 mètres de Pungé pour réduire le score à la 56e minute. On se dit que Bordeaux a accéléré. Ben, ce n'est pas le cas, encore une fois. En tout cas, les Bordelais maîtrisent ce ballon. Ils ont plus de 65% de possession de balle sur la deuxième mi-temps, mais ne se créent pas véritablement d'occasion. N'inquiète pas le gardien Lossol. La faute aussi à une très bonne défense guingampeste, très bien en place, avec notamment Sorbon et Angoua dans l'axe, qui ont été très solides. La maladresse, le manque de précision des attaquants bordelais ont permis aux Guingampais d'arracher ce match nul. Mais c'est vrai que les Bordelais peuvent quand même avoir des regrets, ils auraient pu s'imposer. Aujourd'hui, ils en avaient les moyens, manquaient juste les occasions et surtout les buts.
Christophe, rapidement, pour Bordeaux qui est à 13 points du podium maintenant, la suite de la saison risque de manquer un petit peu de saveur.
Oui, pourtant, l'actionnaire principal des Girondins qui a offert à Willy Sagnol deux recrues au Mercato, Clément Santôme, cette semaine, arrivé du PSG, puis le jeune Suédois Kistelin, un grand espoir du football suédois, a mis la pression. Hein. Nicolas Taverneau a dit maintenant qu'on vous a donné des recrues, il faut l'Europe, alors qu'ils sont plutôt discrets et plutôt mesurés du côté d'M6. Eh bien, ils ont mis la pression, donc il va falloir très très vite réagir. Ça ne va pas forcément être simple. Les Bordelais se déplacent à Evian, Tonon Gaillard, et puis dans une quinzaine de jours, ils recevront Saint-Etienne avec l'obligation absolument de prendre des points pour rester dans la course. Même si évidemment l'Europe s'éloigne un petit peu plus ce soir avec ses deux points perdus à domicile.
Merci beaucoup Christophe Miedougé pour France Bleu en direct du stade Chaban-Delmas de Bordeaux. Guingamp de son côté gagne deux places au classement 11e. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Saint-Etienne avait eu une bonne occasion de se rapprocher du podium, mais les Verts sont passés au travers à Caen, défaite 1-0. Un but pour les Normands de Julien Ferré juste avant la pause. Désormais, Saint-Etienne est à 7 points au classement de l'OM et du PSG, mais l'entraîneur Christophe Galtier relativise quand même la situation.
On a un scénario très défavorable en première période. On est mené 1-0, je pense, contre le cours du jeu. Mais c'était la réalité de la première période. Par contre, en deuxième, Brienne est allé dans notre sens. Du moins, on n'a pas fait grand-chose pour que ça aille dans notre sens. Et si Caen l'a emporté, c'est que Caen mérite sa victoire. Ça ne remet pas en cause les objectifs définis par le club. Si ce n'est que voilà, on a eu une très bonne première partie de championnat. Là, on a une période difficile avec des joueurs absents pour diverses raisons, pour des blessures et pour des sélections. Mais il faut qu'on arrive à passer cette période-là avec le moins de dégâts possible, trouver des options sûrement différentes pour faire le dos rond avec un effectif très affaibli.
Et pour les Canets, c'est la 3e victoire de suite. Ça leur permet de sortir de la zone rouge avec une 15e place. Les relégables, après cette 23e journée, sont Evian, Lens et Metz. On regarde maintenant vers le haut du classement et on termine fort avec Monaco face à Lyon. La meilleure attaque du championnat en visite chez l'une des meilleures défenses. Lyon a surtout l'occasion de distancer ses poursuivants. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, direction le stade Louis II où nous retrouvons l'envoyé spécial de France Bleu, Dominique Poulain. Bonsoir Dominique.
Bonsoir Jérôme.
Alors ce match face au leader, c'est pour l'équipe de la Principauté, on va dire, l'une des dernières chances de se rapprocher du podium. Hein.
Oui, c'est vrai, c'est une soirée d'hiver, hein, comme le titre, la banderole hein, de l'AS Monaco, pour inciter les gens naturellement à venir remplir ce stade Louis II. Une soirée d'hiver, un match de gala, parce qu'on n'en voit plus beaucoup ce soir à Monaco. Et c'est vrai que les Monégasques eh bien, ont une belle opportunité de se rapprocher du podium. Déjà, ils ont l'occasion eh bien, de passer devant Saint-Etienne, hein, puisqu'ils ne sont qu'à un point des Stéphanois. Ils ne sont qu'à 8 points de la deuxième deuxième et la troisième place occupée par Marseille et le Paris Saint-Germain. Ils sont quand même à 9 points de l'Olympique Lyonnais. Mais c'est vrai que eh bien, depuis deux mois, eh bien, Monaco a revu un peu ses ambitions à la hausse. C'est vrai que l'objectif de départ, c'était naturellement cette troisième place pour essayer d'aller décrocher une place pour la Ligue des Champions. Mais là, depuis quelques temps, eh bien, on se dit, en tout cas, on rêve du côté Monaco, pourquoi pas aller chercher la première place du championnat. C'est en tout cas ce que laissait entendre vendredi midi lors du point presse le défenseur Fabinho.
En tout cas, Dominique, Monaco pourra s'appuyer une nouvelle fois, j'allais dire, sur sa défense. C'est l'une des plus performantes d'Europe en ce moment.
C'est la troisième meilleure défense du championnat et c'est vrai que c'est la force de l'AS Monaco parce qu'au niveau du milieu de terrain, eh bien, il y a une belle maîtrise. Au niveau de l'attaque, eh bien, il y a quand même beaucoup de réussite parce que les Monégasques dominent mais ne se créent pas d'occasions franches. Et c'est vrai que derrière, eh bien, c'est plutôt solide. Monaco qui a une défense de fer, Monaco qui a encaissé qu'un seul but au cours de ces deux derniers mois. Et figurez-vous que le but encaissé, eh bien, c'était un but à Lyon en Coupe de la Ligue et Monaco s'était imposé au tir au but. Mais c'est vrai que Subasic, eh bien, ça fait quand même 101 minutes que le gardien monégasque, eh bien, n'a pas encaissé le moindre but. Ça fait quasiment 8 matchs, un peu plus de 7 matchs. Et c'est la meilleure série en cours des 5 grands championnats européens. Alors, c'est vrai aussi, Jérôme, que Subasic, eh bien, est encore loin du record de Gaëtan Huard de 93 qui, lui, était resté invaincu 1176 minutes.
Avec les Girondins.
Avec les Girondins de Bordeaux, c'est vrai. Mais Subasic, en tout cas, se rapproche du record de cette saison. Record qui, pour l'instant, est détenu par le gardien de Saint-Etienne, Stéphane Ruffier, qui, lui, est resté invaincu 107 minutes sans encaisser de but. Il y a bien sûr Subasic et puis il y a surtout aussi Radji qui est vraiment devenu incontournable en défense.
Merci beaucoup Dominique Poulain depuis le stade Louis II à Monaco. Une défense solide pour Monaco, mais je vous le disais aussi, la meilleure attaque est lyonnaise. 47 buts marqués, dont 20 pour le seul Alexandre Lacazette, l'attaquant de l'OL blessé. Mais ce n'est pas franchement un problème si l'on écoute l'entraîneur rhodanien Hubert Fournier.
C'est une difficulté quand même de rencontrer cette équipe de Monaco qui est en pleine bourre sans Alex. Mais il faut le voir aussi comme une opportunité pour l'ensemble de l'effectif de montrer qu'il n'y a pas que Alex, mais on s'appuie aussi sur un groupe solide, un collectif qui a des repères et j'espère que voilà, ça nous permettra de montrer aux sceptiques qu'il n'y a pas que Alexandre Lacazette au sein de l'Olympique Lyonnais.
Oui, Alexandre Lacazette blessé et donc c'est Monaco face à Lyon, c'est ce soir à 21h. Lyon qui a l'occasion de distancer un petit peu ses poursuivants et pour l'instant dans cette 23e journée, il n'y a eu que 10 buts marqués. C'est pas beaucoup alors messieurs les attaquants de Lyon et de Monaco, allez-y ce soir pour faire gonfler un petit peu ce score.
Le Stade Bleu, Jérôme Val.
Et on va faire, avant de retrouver Olivier Navarane pour continuer à parler football, on va faire une petite pause hand, évidemment, puisque c'est l'info de la soirée, ce cinquième titre pour les handballeurs français qui ont battu le Qatar 25-22. On va écouter la réaction de l'adjoint du sélectionneur Claude Onesta, c'est Didier Dinard qui lui aussi avait été sacré il y a quelques années.
Oh, cette équipe a vraiment un mental à toute épreuve. On a été lucide jusqu'au bout et il fallait être centré pour encore une fois jouer dans le money time et ils ont vraiment été énormes. Je pense que c'est des émotions différentes. Ça a été mon premier titre en tant qu'entraîneur, donc ça a été la première fois. Donc ça se vit comme un jeune, regardez. Ça se voit, on vit les choses à 200%. On perd comme un champion, on gagne comme un champion et on fait la fête comme un champion.
La fête risque d'être grande ce soir pour les handballeurs français au Qatar. Comme promis, on va donc retrouver Olivier Navarane pour parler foot. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Jérôme.
Journaliste à Sport Mag. Alors vous le savez peut-être, le mercato d'hiver se termine demain soir pour tous les clubs. Un mercato d'ailleurs plutôt calme cette saison. Alors il reste Olivier, grosso modo, 24 heures pour essayer de, pourquoi pas, de faire venir un joueur. Mais est-ce qu'il peut encore se passer des choses dans ce mercato d'ici demain soir? Ou alors c'est vraiment fini là?
Tout à fait. C'est plutôt dans ces dernières heures justement qu'il pourrait se passer des choses. Hein. Notamment à Marseille, qui pourrait recruter Lucas Ocampos. Le joueur de l'AS Monaco devrait être prêté à l'OM jusqu'à la fin de la saison. En parlant de Marseille, justement, le défenseur brésilien Doria pourrait quitter le club aussi dans les prochaines heures. C'est vrai que c'est un sujet sensible à Marseille, hein, puisqu'il n'a toujours pas joué cette saison. Le Paris Saint-Germain sera également à suivre, hein, puisque le défenseur brésilien Marquinhos pourrait faire l'objet d'une offre de dernière minute de la part de Manchester United. Et Paris qui pourrait profiter également de ces dernières heures pour acheter un attaquant. on sait déjà que ce ne sera pas Emmanuel Adebayor.
En tout cas, je le disais quand même, c'est un mercato un peu morne-pleine hein, depuis plusieurs semaines. Un des plus calmes d'ailleurs en Ligue 1 depuis une décennie. Ça veut dire quoi? Il faut interpréter ça comment, Olivier? Les clubs n'ont plus les moyens?
Les clubs n'ont plus les moyens, tout à fait. Puis c'est vrai que c'est un mercato qui a été un peu à l'image du transfert d'Atem Ben Arfa à Nice. Il y a eu beaucoup de bruit pour rien, beaucoup de rumeurs. Alors c'est vrai que le manque de moyens, notamment pour le Paris Saint-Germain, qui est limité par le fair play financier. Marseille aussi, qui manque un peu de moyens. Le transfert le plus marquant, c'est Clément Chantôme à Bordeaux, ce qui prouve bien que ça n'a pas été un mercato
très pour moins d'un million d'euros en plus. Hein.
Tout à fait. C'est vrai que ceux qui sont plutôt signalés, ce sont les clubs en lutte pour le maintien qui ont vraiment profité de ce mercato pour opérer quelques ajustements à moindre coût. C'est vraiment ce qui ressort de ces mercatos d'hiver. Ce sont surtout des ajustements pour des sommes assez modiques.
Olivier, on quitte le continent européen pour aller en Afrique, puisque c'est la suite des quarts de finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Le Ghana a battu la Guinée en début d'après-midi 3-0. Et puis ce soir, il y a surtout une affiche alléchante entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie.
Tout à fait. Ben, entre les deux favoris de la compétition, hein, tout simplement, ce soir à 20h30, l'Algérie entraînée par Christian Gourcuff face à la Côte d'Ivoire d'Hervé Renard. Voilà, c'est vraiment le choc de cette compétition. Vous l'avez dit, cet après-midi, le Ghana a battu la Guinée 3-0. On peut revenir aussi sur les résultats d'hier, notamment avec ce choc entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Hein. C'est la République démocratique du Congo qui l'a emporté 4-2. Et puis il y a surtout eu ce match hier soir entre la Tunisie et la Guinée équatoriale. Victoire de la Guinée équatoriale 2-1 dans un match qui a tourné un peu au scandale. Hein. Tant l'arbitrage était en faveur de la Guinée équatoriale, qui est le pays organisateur de la compétition, rappelons-le. Avec notamment un pénalty dans les arrêts de jeu qui était inexistant et qui a permis à la Guinée équatoriale d'atteindre les demi-finales de la compétition.
Merci beaucoup Olivier Navarane de Sport Mag. J'en profite pour dire que le numéro de février est sorti et vous vous intéressez notamment aux Dragons catalans, la seule équipe française à évoluer en Super League de rugby à 13, club historique et qui veut aller chercher un titre, ce qui serait là aussi une première pour les Français. Merci à vous, bonne soirée.
Le Stade Bleu, Jérôme Val.
Rien ne pouvait arrêter le Joker, le surnom de Novak Djokovic. Le Serbe a remporté l'Open d'Australie de tennis face à Andy Murray. Victoire en 3-7, 7-6, 6-7, 6-3, 6-0. Murray qui a résisté pendant 2-7 avant de totalement lâcher le match. C'est la cinquième fois que Djokovic remporte cet Open australien. C'est un record. À Melbourne, pour France Bleu, on retrouve Fabrice Abgral.
Novak Djokovic est chez lui à Melbourne, c'est son jardin là où son tennis s'exprime le mieux. Il l'a prouvé durant tout le tournoi et davantage encore aujourd'hui en finale que le Serbe a remporté au terme d'un match de 3h39. Un match d'une incroyable intensité, très disputé, indécis jusqu'à la fin du troisième set avant qu'Andy Murray ne craque mentalement et surtout physiquement. L'Écossais a fourni des efforts considérables pour rivaliser avec le numéro 1 mondial, mais dans le quatrième set, le Britannique a cédé. Pendant près de 3 heures pourtant, Andy Murray a fait jeu égal avec le Serbe, soutenant les échanges et la cadence imposé par un Djokovic insolent de solidité, défenseur infatigable et impressionnant de détermination. Mais le Britannique, en fin de match, n'était plus armé pour espérer l'emporter. Décidément, Andy Murray est maudit à Melbourne où il a perdu les 4 finales qu'il a disputées. Novak Djokovic, en revanche, est invaincu en finale à l'Open d'Australie. Le Serbe a remporté son 5e titre à Melbourne pour autant de finales jouées. Novak Djokovic totalise désormais 8 titres du Grand Chelem. Il rejoint au palmarès André Agassi, Jimmy Connors, Ivan Lendl et Fred Perry. Novak Djokovic a remporté 4 des 5 dernières éditions de l'Open d'Australie. Il n'a perdu qu'un seul des 33 matchs qu'il a disputés depuis 2011.
Fabrice Sabgral, la Melbourne pour France Bleu. Il y avait aussi la finale du double mixte avec une Française. En finale, Kristina Mladenovic était associée au Canadien Daniel Nestor. Ils avaient d'ailleurs remporté l'épreuve australienne il y a un an. Mais cette fois, ils ont perdu en 2-7, 6-4, 6-3 face à l'Indien Linder Paes et la Suisse Martina Hingis. Un comeback gagnant pour celle qui n'avait plus gagné en Grand Chelem depuis 2006.
Le Stade Bleu, Jérôme Val.
In Super Bowl 49, they finally need to settle the score.
The biggest game in all of sports. Everything is set for the Super Bowl matchup.
Delivering the boom isn't enough.
C'est un événement de toutes les démesures pour le sport le plus populaire outre-Atlantique. C'est presque un pays qui va s'arrêter de vivre la nuit prochaine. Les États-Unis auront les yeux rivés sur Phoenix, la capitale de l'Arizona qui accueille le 49e Super Bowl. La finale de la Ligue nationale de football américain qui va opposer les Seahawks de Seattle tenant du titre et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et pour en parler, nous accueillons ce soir dans Stade Bleu Michel Dom. Bonsoir.
Bonsoir. bonsoir, comment allez-vous?
Très bien, et vous? J'imagine très excité, vous êtes le président de la Fédération Française de Football Américain, très excité à l'idée de suivre ce 49e Super Bowl.
Absolument, vous avez deux très belles équipes à l'issue d'une saison. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés externes, je dirais, au jeu lui-même, mais c'est vraiment deux des équipes majeures qu'on a actuellement.
Alors, je le disais, hein, Michel Dom, toutes les démesures sont permises pour cette compétition. Des places à 5 000 $, des spots de pub à plus de 4 millions d'euros, les 30 secondes, plus de 115 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Le Super Bowl, j'ai envie de vous dire, c'est surtout ça avant d'être un événement sportif, non?
C'est tout. Évidemment, on est dans le sport professionnel. Et dans le sport professionnel, il y a une dimension spectacle qu'on ne peut pas ignorer. Le football américain, effectivement, c'est le premier sport aux États-Unis. Le sport américain, vous savez, ça se passe à l'école. Les universités américaines, elles financent leur programme sportif par le football américain.
Donc, c'est une économie aussi, forcément.
Ah, c'est totalement une économie, bien sûr.
Alors, on n'en est pas là en France, hein, Michel Dom, mais c'est quand même une discipline en pleine progression. Bon, il faut dire que vous êtes parti de zéro au début des années 80. Hein.
Absolument, en 79, Laurent Plégelat ramène quelques équipements et quelques fanatiques s'essayent à ce sport. Et moi j'arrive en fédération en 88, pour vous donner un ordre d'idée, on devait avoir quelque chose comme 3000 membres. Aujourd'hui on en a 22 000, avec trois sports différents, le football américain à titre prioritaire, le flag football qui est la version gérée d'éducation mais qui a aussi une dimension de compétition mais qui se fait à 5 contre 5, sans équipement, sans contact, en mixte, enfin voilà, qui est un bon outil de développement. Et puis le cheerleading, qui sont les filles qu'on appelle pom-pom girls, mais c'est pas vraiment ça, c'est de plus en plus une discipline très gymnique, extrêmement spectaculaire aussi.
Et puis une équipe de France également, qui devrait normalement disputer les championnats du monde cette année, c'est toujours d'actualité ou pas?
Alors, l'équipe de France est qualifiée. Nous avons maintenu notre participation, bien que la Suède ait annulé le championnat du monde qui était prévu depuis 3 ans chez eux, parce qu'ils n'ont pas réussi à rassembler les budgets et à monter l'opération complète. Aujourd'hui, on nous envoie a priori à Canton, Ohio, donc qui est le Hall of Fame de la NFL. Alors, qui n'est pas un endroit énorme, hein, c'est 80 000 habitants, mais on peut quand même faire quelque chose, et nous avons une équipe de France qui effectivement est en stage et qui se prépare.
Et c'est donc pour cette année, ce championnat du monde?
Voilà, si ça ne change pas encore un peu.
Ben merci beaucoup en tout cas Michel Dom pour ce clin d'œil hein, que l'on réservait au Super Bowl. C'est à 00h30 heure française entre Seattle et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Seattle tenant du titre. Merci beaucoup, vous êtes le président de la Fédération Française de Football Américain et bon courage pour demain matin parce que je pense que la nuit va être un petit peu courte.
Ah, ça risque.
Merci à vous, merci beaucoup évidemment de nous avoir suivis une nouvelle fois ce soir. Je vous rappelle l'information principale évidemment du sport ce soir pour le sport tricolore, c'est ce 5e titre pour les handballeurs français, 5e titre mondial, victoire contre le Qatar 25-22 dans ces championnats du monde qui se sont achevés donc en apothéose pour les Français qui vont de pouvoir accrocher une 5e étoile sur leur maillot. Dans quelques secondes, c'est l'invité de Stade Bleu et un entretien exclusif avec Jérôme Valck, c'est le secrétaire général de la FIFA. Il va nous parler de plein de choses intéressantes et notamment du Qatar. Tiens, justement. Très bonne soirée à vous et bien sûr à samedi prochain pour Stade Bleu.
De Nantes à Metz, de Laval à Chambéry, il y a 44 France Bleu partout en France. Écoutez, on est bien ensemble. France Bleu. France Bleu, écoutez, on est bien ensemble.
Si vous prenez les mêmes routes et voyez les mêmes paysages que nous.
Si vous supportez les mêmes équipes et chantez les mêmes chansons que nous.
Si vous levez les yeux au ciel et ouvrez votre parapluie en même temps que nous,
c'est simplement que nous ne sommes jamais loin de vous.
On est bien ensemble sur France Bleu. Stade Bleu, le week-end à 19h sur France Bleu.